Bonsoir David, bonsoir à tous. La région Nouvelle-Aquitaine vote son budget en ce début de semaine. Un budget compliqué à bâtir et pas assez doté malgré des compétences importantes selon l'exécutif. La cybersécurité est un vrai sujet pour les entreprises qui ne doivent pas négliger leur vulnérabilité. Veolia et le SVL avaient invité des experts la semaine dernière. Journée de mobilisation demain. Dans les lycées professionnels, la réforme est contestée par les enseignants. Le Bocage est une terre de théâtre qui se produisent pour une partie d'entre eux en ce moment, à l'image de la troupe de Chiché. Puis on s'intéressera à Julien Texier qui a découvert le paratennis après une amputation, un témoignage à ne pas manquer en fin d'édition.
La météo à l'issue du journal, beaucoup de nuages demain avec quelques éclaircies.
Les Deux-Sèvres placées en vigilance orange, les crues de la Sèvre-Niortaise amont sont susceptibles de générer des débordements importants pouvant avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes, a indiqué Vigicru, d'autant que la pluie est encore au programme. On verra les prévisions météo dans quelques minutes. Ces dernières 48 heures, les sapeurs-pompiers de Sèvriens ont réalisé une vingtaine d'interventions en lien avec les événements climatiques. Le sud du département étant majoritairement impacté, ce matin, deux interventions ont été réalisées pour des effondrements de structures bâtimentaires à Niort et à Nanteuil. Un bus de transport scolaire dans le fossé. Ce matin, l'accident s'est produit à Châtillon-sur-Thouet vers 9h30. Le chauffeur a mordu le bas-côté de la chaussée en croisant un poids lourd. Le véhicule s'est immobilisé dans le fossé en appui contre des arbres. Une vingtaine d'élèves de lauréat de Saint-Aubin-de-Cloud et le conducteur se sont retrouvés piégés dans le car. Les pompiers ont dû créer une ouverture sur le flanc opposé afin de dégager les occupants. Il n'y a pas eu de blessés.
Les 183 élus des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine réunis aujourd'hui et demain à Bordeaux.
Et au menu, 33 dossiers à l'ordre du jour, dont le vote du budget 2024, un budget de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Un budget faible à l'échelle d'autres régions européennes, selon le président Alain Rousset, qui prend l'exemple du Pays basque espagnol, qui se chiffre à 18 milliards. Le budget de la collectivité s'est avéré compliqué à construire, selon la conseillère régionale en charge des finances, Sandrine Derville, qui au passage tacle une nouvelle fois le gouvernement.
Un budget qui d'année en année s'avère de plus en plus compliqué à bâtir. Les régions parmi l'ensemble de ces collectivités sont sans aucun doute le bloc de collectivités dont les compétences sont le plus indispensables en matière de transition écologique. On peut citer bien évidemment les transports et l'enjeu des mobilités décarbonées, mais également nos compétences en faveur des lycées, en faveur de la décarbonation des entreprises. Bref, nos compétences sont vraiment au cœur de ces transitions. Nous avons pendant les années à venir un pic d'investissement à assumer afin de générer les économies de demain et d'après-demain. Nous en sommes toutes et tous convaincus. Malgré tout, il nous faut les moyens de passer ce pic d'investissement. C'est particulièrement compliqué dans un contexte où le bloc régional est celui qui a le plus souffert des différentes crises. L'épargne des régions s'est fortement dégradée et n'a pas retrouvé son niveau d'avant 2019 et on ne comprend pas bien, on ne comprend même pas du tout pourquoi les régions ont été le seul niveau de collectivité absolument pas aidé par le gouvernement, oublié, totalement oublié.
Sandrine Derville, conseillère régionale en charge des finances, les élus régionaux sont réunis ce lundi et mardi pour notamment voter ce budget 2024. L'immobilisation d'un système informatique peut coûter cher, très cher, comme peut en témoigner le directeur eau et assainissement d'Angers Loire Métropole.
Une cyberattaque qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier, donc qui a attaqué l'ensemble du système d'information d'Angers Loire Métropole, détecté relativement tôt par les équipes de la direction des services informatiques, puisqu'une maintenance était prévue ce jour-là, le matin, pour limiter les dégâts. Oui. Donc rapidement, l'attaque a été détectée, qui était une attaque de type ransomware, c'est-à-dire chiffrer les données, puis ensuite demander une rançon pour avoir une clé de décryptage du chiffrement des données. Aujourd'hui, on en est peut-être autour des 2 millions d'euros.
Le directeur eau et assainissement d'Angers Loire Métropole, Frédéric Espéré, souligne ici les conséquences financières de la cyberattaque vécue par son entreprise, même si aucune rançon n'a été payée. Et elles sont de plus en plus fréquentes dans les grandes comme dans les petites entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Les experts en cybersécurité qui avaient répondu à l'invitation du syndicat du Val-de-Loire et de Veolia pour évoquer cet enjeu majeur qu'est la cybersécurité ont insisté sur l'importance de prendre la mesure de la menace, comme a pu le dire Capitaine Olivier, expert en cybersécurité du ministère de l'Intérieur.
Vous pensez bien que pour une entreprise qui va travailler dans le nucléaire et qui va avoir comme concurrent des grands groupes en provenance de pays qui parfois ne sont pas des démocraties, là on va avoir des problématiques d'attaques ciblées, préparées en amont, assez redoutables. Mais la plupart du temps quand même on a affaire souvent à des attaques non ciblées. Donc il est, je ne dis pas qu'il est facile, mais une attaque non ciblée avec un peu une bonne sensibilisation et une politique interne de prévention des risques, on peut quand même raisonnablement diminuer le risque de se faire hacker. En revanche, on a aussi un contexte avec des attaques à la fois ciblées, mais aussi des modes opératoires d'attaque d'origine étatique. Hein, vous avez des pays qui vraiment utilisent des gros moyens pour lancer des cyberattaques. Et donc là, évidemment, le risque, c'est que ces pays achètent sur l'étagère des failles de sécurité, hein, les fameuses failles 0D, c'est-à-dire que ce sont des brèches dans des codes qui ne sont pas connus du fabricant. Voilà.
Tous connectés, tous vigilants et tous responsables par son comportement sur Internet, insistaient les experts, alors même que le risque zéro n'existe pas. D'autant moins que les hackers ont souvent un coup d'avance, rappelait un autre expert qui tient à garder l'anonymat.
C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ils vont très vite, ils ont beaucoup de moyens aussi. Hein. Les organisations de hackers sont des vraies entreprises. Hein. Il y a des services marketing, il y a un chief happiness officer qui s'occupe du bien-être des fameux attaquants. Enfin bon, c'est vraiment très structuré. C'est un peu comme la foudre qui tape le sol, elle prend le chemin le plus court ou le plus facile. Donc si vous êtes un peu plus sécurisé que votre voisin, ils vont attaquer votre voisin parce que ça sera plus rentable. Donc l'idée, c'est que chacun progresse et qu'ils aillent plutôt attaquer ailleurs. Leur rendre la vie plus compliquée et que ça leur coûte plus cher de nous attaquer.
Nous sommes attaqués par des virus dans nos corps, nos esprits et nos outils de fonctionnement. C'est avec ces mots que Dominique Régnier, la présidente du syndicat du Val-de-Loire, avait ouvert cette soirée thématique à méditer.
Journée de mobilisation demain dans les lycées professionnels.
À l'appel de l'intersyndicale, tous les personnels sont invités à se mobiliser pour exiger le retrait de la réforme des lycées pro, une réforme qui réduit le nombre d'heures de cours en terminale, 85 pour un total de plus de 200 heures en moins sur les 3 années, seconde, première et terminale. Jean-Luc Germano est enseignant à Jean Moulin, à Thouars, et il est affilié au SNETA-FO.
Dans un premier temps, on peut dire simplement qu'il y a déjà eu des réformes qui n'ont jamais été évaluées, donc continuer à faire des réformes sans évaluer les précédentes, il n'y a pas trop d'intérêt, première chose. Deuxième chose qui tient au fond de cette réforme, c'est la baisse des enseignements prodigués aux élèves, notamment en terminale, aussi bien en enseignement professionnel qu'en enseignement général. Donc on a un ministre qui nous dit qu'il veut essayer de redorer un petit peu le blason du lycée professionnel. On ne peut pas dire ça et en même temps diminuer la formation de nos élèves.
Selon la réforme, les terminales vont passer de 22 à 20 semaines en cours. La période de formation en milieu professionnel va passer de 8 à 6 semaines. Les élèves passeront plus de temps en stage, mais ce n'est pas souhaitable selon Jean-Luc Germano.
Un stage n'est pas une période de formation en milieu professionnel, puisque le stage, effectivement, le jeune peut être formé si l'entreprise le désire, mais l'objectif du stage, c'est quand même d'appliquer ce qu'on a appris, et donc on aura des élèves qui seront de la main-d'œuvre pas chère pour les entreprises. C'est pas normal. On n'est quand même pas dans le monde de Zola, enfin il me semble, sauf que là on y retourne à grande vitesse. Donc le gouvernement, lui, dans la réforme, va vous dire oui, non, c'est pas vrai, parce qu'effectivement, les élèves, donc il y a une partie des élèves qui vont aller en stage en fin d'année, il y a une autre partie qui va rester dans les lycées pour suivre des approfondissements, si vous voulez, pour qu'ils puissent continuer dans l'enseignement supérieur. Donc il y aurait un enseignement à deux vitesses en France. C'est pas tout à fait normal. On forme effectivement des professionnels, mais on forme aussi des citoyens. C'est vraiment un système à deux vitesses qui est extrêmement négatif pour notre jeunesse.
Et Jean-Luc Germano dénonce une vision court-termiste du gouvernement à propos des lycées professionnels qui se dirigent vers une nouvelle réforme. Mobilisation donc demain dès 8h devant les établissements, en matinée devant la direction académique des services de l'éducation nationale et en début d'après-midi au rectorat.
Le Bocage, terre de théâtre.
On ne compte pas le nombre de troupes dont les comédiens, tous amateurs, montent chaque année en cette période sur scène. C'est le cas pour les Amis du Théâtre de Chiché qui, depuis le 25 novembre dernier, donnent la pièce Auguste. Ils sont 14 à monter sur les planches pour évoquer l'histoire d'Auguste, à la fois homme d'aujourd'hui et légende d'hier, drôle et touchant. Le tout dans une période mystérieuse avec des personnages hauts en couleur. Histoire sortie tout droit de l'imaginaire du metteur en scène Loïc Bouju, au micro de Patrice Bémanangy.
Ce thème-là, que je ne dirais pas, il est là depuis très longtemps et je voulais vraiment le mettre en forme. Donc, en janvier, j'ai demandé à savoir déjà qui allait jouer sur scène. Ensuite, j'ai mis tout ça en place. Donc, de janvier-février, l'histoire s'est dessinée. Puis, de mars à avril, à mai, en 3 mois, j'ai écrit les dialogues.
Mais vous saviez déjà, quelque part, quel acteur, quel comédien vous alliez prendre ?
Globalement, ça aide, effectivement. J'avais une idée pour tout le monde. Et je voulais donner une importance à tout le monde parce que je voulais pas qu'il y ait de sous-rôle ni de sous-texte. La figuration du passant qui passe ne m'intéresse pas. Il fallait que chacun ait un rôle intelligent. Et aujourd'hui, même si certains n'ont pas beaucoup de texte, personne n'est remplaçable. C'est une comédie où on rigole, mais je voulais apporter du fond quand même à ce que j'apportais. Donc c'est une histoire d'hier, effectivement, mais qui reste vraie encore aujourd'hui et à garder dans un coin de sa tête pour longtemps, j'espère.
Auguste, par les amis du théâtre de Chiché, sera de nouveau donné les 15 et 16 décembre en première partie. L'atelier Enfant joue Pension complète au paradis de Raymond Chartier. C'est une tradition britannique. Chaque fin d'année, le Royal Ballet Opera de Londres programme Casse-Noisette, incontournable création du répertoire chorégraphique. Cette œuvre féerique sera à l'affiche du Fauteuil Rouge de Bressuire demain soir, comme dans plus d'un millier de salles dans le monde. Un rendez-vous à 20h15 précise.
Julien Texier en finale ce week-end du tournoi par tennis de Bressuire pour sa deuxième participation.
Le Chapelet a été battu par Stéphane Porcher, par ailleurs président de la commission tennis fauteuil des Deux-Sèvres, dans le tournoi Open Rolling, qui a la particularité de rassembler des joueurs valides et non valides. Julien Texier a découvert le paratennis lors d'un séjour de rééducation au Grand Feu faisant suite à son amputation en 2022. Pour ce trentenaire, les soucis ont débuté en 2008 après une blessure contractée sur un terrain de foot.
C'est fracture tibia-péronée au foot, avec pas mal de contraintes après. 2 jours après mon opération, j'ai fait le syndrome des loges. Donc suite à ça, j'ai fait une septicémie. Donc après, ils m'ont fait une reconstruction osseuse. Et donc ça, c'est sur 2 ans et demi à peu près, de 2008 à 2010, toutes ces opérations. Donc j'ai eu la chance d'avoir un poste réadapté parce que j'étais plombier chauffagiste, donc j'étais vraiment sur le terrain. Et donc j'ai eu la chance que mon employeur m'a gardé et m'a fait un poste adapté au bureau d'études, que je suis resté de 2010 à 2020. Je suis passé chargé d'affaires par la suite. Et en 2021, suite, je sais pas si c'est dû à ça, mais 2 jours après mon vaccin Covid, je refais une infection de ma jambe. Et c'est là que j'ai pris la décision de l'amputation.
Julien Texier, qui travaille chez Jean-Paul Auger, a rejoint le TC Bressuire pour pratiquer le paratennis une fois par semaine et participer donc au tournoi de Bressuire ce week-end. Pour cet ancien footeux, la reprise d'une activité sportive est évidemment très bénéfique.
Moi, c'était juste la fierté de recommencer à faire un sport que j'avais arrêté depuis pas mal d'années, depuis mon accident de 2008 jusqu'à mon amputation en 2022. J'avais rien à repratiquer en sport.
Et alors, quelles sont tes sensations? Comment est-ce que tu vis? On parle d'une renaissance ou pas?
Ouais, bah, une renaissance, mais ça vide la tête et tout ça, autre que le travail.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que bon, on joue assis, il y a deux rebonds pour la balle. Raconte-nous.
Donc, c'est les mêmes règles que le tennis normal, sauf qu'il y a juste les deux rebonds en plus. Moi qui aime bien en plus rouler, non, c'est pas là que j'ai le plus de difficultés. J'irais plus à relancer la balle puis à bien placer, que là j'ai pas encore le geste du tennisman.
Tu t'entraînes assez régulièrement?
Une fois par semaine à Bressuire.
Julien Texier au micro de Vincent Noris ce week-end lors du tournoi paratennis de Bressuire.
Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et on termine, Fabien, cette journée de lundi comme on l'a commencé.
Sous un ciel couvert et dans l'humidité, beaucoup de nuages encore demain, mardi, mais aussi quelques éclaircies. Toujours cette humidité, plus de vent, des rafales à 60-65 km/h, 12-13 degrés au lever du jour, 14-15 degrés pour les maximales de la douceur. Donc la suite de la semaine, des nuages et des éclaircies de mercredi à vendredi avec un risque de pluie assez faible et un mercure en baisse.
Merci Fabien pour toute l'info près de chez nous ce lundi soir. Retour demain matin.
Demain matin 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.